Bonjour tout le monde. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait, ma foi, pas loin de 2 ans que je ne suis pas venue à ce micro d'Isabelle. Isabelle qui prend une journée de congé, elle sera de retour demain. On m'a demandé d'être ici ce matin pour cette émission que je vous promets pas mal intéressante. Sincèrement, les sujets sont variés. Il y a des sujets qui vont vous faire plaisir, pas sûr, mais oui, je pense que oui. Puis des sujets qui vont vous faire lever de votre chaise. Je vous raconte tout ça dans quelques instants, mais je tenais à vous dire à quel point je suis ravie d'être là parce que cette émission, elle est merveilleuse à faire parce qu'on la fait vraiment avec vous. C'est vous qui nourrissez cette émission. On a l'avantage de vous entendre, de savoir ce que vous pensez immédiatement. Et ça, ben, c'est le bonheur de la radio. Vraiment, pour moi, c'est un grand plaisir. Alors, j'ai très hâte de vous parler, sachez-le. Et puis, ben voilà nos sujets ce matin. 4 sujets, donc, qui vont vous faire réagir. On va parler dans quelques instants de cette histoire incroyable du devoir. C'est important de donner le crédit au devoir quand un journaliste fait un article comme ça. Ceux qui font une contestation devant le tribunal administratif du logement, ce qu'on appelait avant la régie du logement, pourraient voir leurs données hameçonnées, hackées si vous préférez, carrément subtilisées par des gens mal intentionnés. Vous imaginez, vous faites une demande, une plainte contre votre propriétaire ou quoi que ce soit, et puis paf, vos données se retrouvent sur un site qui est accessible. On va essayer de voir jusqu'à quel point ça vous trouble et puis est-ce que vous avez déjà vécu un vol de données personnelles. Et puis, on veut savoir comment se vit pour vous la perte de contact physique pendant cette pandémie. Parce qu'on a parlé beaucoup des couples puis de comment les couples fonctionnaient. Mais là, seul, célibataire, comment ça se passe pour vous? Une sexologue va venir nous dire à quel point c'est difficile pour sa clientèle. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de célibataires qui viennent la consulter, qui sont complètement découragés. Et puis, le sujet qui risque de vous faire sauter de votre chaise, est-ce que vous êtes prêt à payer pour une table à pique-nique pour aller dans un parc? Un simple parc, là. Une table à pique-nique, peut-être des jeux pour enfants. Réserver la table comme au resto. La ville de Dorval est sur le point d'adopter un règlement en ce sens. Et ça, on va parler dans la dernière demi-heure de l'émission. Mais tout d'abord, important point de presse tout à l'heure du ministre de la Santé, Christian Dubé. C'est à 13h. Ce sera sur la suite des choses pour la vaccination. Il semblerait que la vaccination pour tous n'est vraiment pas très loin. Et c'est important de vous dire que nous allons à Cogeco diffuser, ou à tout le moins à 98.5, diffuser ce point de presse-là. Donc, à 13h, point de presse, où donc on retrouvera le ministre Dubé qui sera entouré du responsable de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré, et du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, Dr. Richard Massé. Donc, ils feront le point sur la campagne de vaccination. Pour en parler, nous, ce matin, de ce qui pourrait être annoncé, on va spéculer un petit peu, on va parler immédiatement à docteur, il n'est pas médecin, mais j'ai le goût de l'appeler docteur parce que je suis sûre qu'il y a tous les papiers pour se faire appeler docteur, Benoît Barbeau, qui est virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
Bonjour, Madame Labelle.
D'abord, j'ai le goût de vous poser la question, est-ce que vous êtes vacciné?
Oui.
Et est-ce que je peux vous demander lequel?
AstraZeneca.
Et tout s'est bien passé?
Jusqu'à présent, oui. Donc, vous savez, on entend beaucoup parler des effets secondaires qui sont sérieux, ben du moins qui sont un peu plus importants. Ça demeure quand même un pourcentage qui n'est pas aussi élevé qu'on semble l'indiquer. Là, je parle des effets secondaires qui sont souvent reliés aux vaccins, donc à toutes sortes de vaccins. Mais dans mon cas, en ce moment, vraiment, j'ai pas vraiment eu d'effets secondaires. Et puis, donc, je crois que tout va bien de mon côté.
Oui, mais moi, je vais faire mon coming out aussi. J'ai eu l'AstraZeneca. Alors, donc, on est pas mal nombreux à avoir eu l'AstraZeneca, oui. Sans problème. C'est sûr qu'un problème, c'est un problème de trop. On le sait. On a tous été totalement consternés par ce qui est arrivé à cette dame dans la cinquantaine. Mais pour l'instant, on dit que ça ne semble pas avoir eu un effet un effet trop négatif sur la suite de la vaccination. Cet après-midi, vous vous attendez, vous, est-ce que le gouvernement élargisse vraiment très, très rapidement la vaccination pour tous?
Bien, tout dépend évidemment à quel point que les doses vaccinales sont disponibles. Vous savez, si vraiment on arrive avec pour lancer justement une nouvelle phase à cette campagne vaccinale et d'élargir vraiment l'ensemble de la population, évidemment, je crois qu'il devrait considérer d'y aller quand même par tranche d'âge pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de leur site web. N'empêche que si les conditions sont favorables, je trouve qu'il faut absolument emboîter le pas. le plus rapidement qu'on peut distribuer le vaccin au niveau de la population, donc les 60 ans et moins, évidemment, les 59 ans et moins plutôt. Alors, la situation sera encore la meilleure et fera en sorte que, justement, le virus circulera sûrement moins, donc on parle particulièrement des variants, mais du moins provoquera moins d'hospitalisation. Alors, certainement, si les conditions sont favorables, oui, il faut aller de l'avant, puis je veux dire, c'est le meilleur scénario qu'on pourrait avoir en ce moment.
Tout à fait. Je regardais dans l'article de la presse de ce matin, il y a pas mal de doses qui s'en viennent. On parle genre oui. 231 660 semaine du 26 avril, 457 000 la semaine suivante. Ça augmente pas mal. Puis la nouvelle, pour ceux qui ont un petit peu peur de l'AstraZeneca, ben, c'est qu'il va arriver un moment où AstraZeneca, il n'y aura pas. Il y en aura plus tard, mais ça va ralentir. Dites-moi une chose. Je sais que ça en agace plusieurs de savoir que même une fois vacciné, il faut presque faire comme si on l'était pas.
Oui, je comprends que c'est un peu... C'est difficile à... Pas nécessairement à comprendre, mais du moins à accepter. Vous savez, en ce moment, on est vacciné, mais autour de nous, il y a quand même un pourcentage de personnes qui ne le sont pas. Ça, c'est le premier point. Vous allez être vacciné, certainement, si vous êtes infecté, parce qu'il y a un pourcentage de personnes vaccinées qui va être infecté tout de même. Malgré tout, le vaccin va au moins vous protéger certainement, si vous êtes infecté, d'avoir des symptômes qui sont trop sévères, qui est mené à une hospitalisation et même à des complications encore plus importantes. Ça fait que ça, c'est important. Mais cependant, si vous êtes infecté et que vous savez qu'autour de vous, vous avez deux tiers de la population qui ne sont pas vaccinés, eh bien, vous pourriez être porteur, vous pourriez être contagieux et donc transmettre le virus et le transmettre à d'autres personnes, et plus particulièrement les variants. Alors, notre objectif en ce moment, comme on l'entrevoit d'ici la fameuse date du 24 juin, c'est non seulement de s'assurer que les vaccins, la campagne vaccinale continue à augmenter dans sa cadence, donc s'assurer de distribuer le plus, mais aussi garder le nombre de nouveaux cas d'infection le plus bas possible. Si vous n'êtes pas capable de maintenir cette propagation-là, eh bien, le virus va continuer à évidemment, à causer problèmes, avoir plus de cas d'infection, des problèmes au niveau du système de santé. Mais le fait qu'une partie de la population est vaccinée, vous créez une pression sur le virus. Et en fait, les variants pourraient aussi changer et s'adapter un peu mieux, justement, à la situation. Donc, devenir en partie un peu plus résistant au vaccin. Et puis ça, il faut absolument l'éviter, éventuellement, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir encore les mesures, s'assurer justement qu'on évite, même si on est vacciné et qu'on pourrait être infecté, de devenir porteur et de transmettre le virus. Rappelez-vous qu'on est encore à un tiers de la population qui est vaccinée, alors ça demeure encore relativement faible. Ouais. Et lorsqu'on aura vraiment au niveau de la population adulte un pourcentage plus élevé, eh bien là, à ce moment-là, en effet, on pourra commencer à déconfiner, encore là, très progressivement.
Oui. Monsieur Barbeau, je soulignais l'importance du public dans cette émission et des appels des gens, mais j'ai oublié de donner le numéro de téléphone en début d'émission. Alors, je vais le donner tout de suite. C'est le 514-790-9850. Sinon, si vous appelez d'un peu plus loin, 1-866-790-9850, si vous avez des questions à poser à Monsieur Barbeau. Évidemment, on ne parle pas de consultation personnelle, mais de questions plus générales sur le vaccin. Ne vous gênez pas pour appeler. On est là avec Monsieur Barbeau jusqu'à 10h30 environ. Monsieur Barbeau, j'ai une petite maman, j'aime bien parler d'elle de temps en temps en nombre parce qu'elle a quand même un certain âge et encore récemment elle me disait, en tout cas je comprends pas pour la deuxième dose parce que moi j'ai encore lu récemment qu'il aurait fallu l'avoir très rapidement après puis même Pfizer avait dit pas plus que 2 semaines. Comment vous, le virologue spécialiste de ce domaine, comprenez qu'on ait pu aller de la recommandation de 10 jours à 2 semaines ou 3 semaines je pense après la première dose à 4 mois?
Oui, bien, écoutez, rappelez-vous que c'est un processus qui est en évolution extrêmement rapide. Tout ce qui était basé sur le 3 semaines de délai était en fonction, justement, des études de phase clinique 3 où qu'on avait établi qu'après une première dose, une deuxième dose était donnée après 3 semaines. C'est un protocole qui était quand même assez strict. On n'avait pas beaucoup on ne testait pas différentes possibilités. Ça nous permettait aussi d'avoir des résultats extrêmement rapides plutôt que si on aurait attendu 3 mois pour la deuxième dose. Ceci dit, ça ne veut pas dire nécessairement que le 3 semaines est optimal. On ne connaît pas vraiment à quel point une dose est optimale, mais ce qu'on comprend de ce qu'on a pu voir justement sur le terrain, mais aussi des analyses au niveau de la réponse immunitaire chez les personnes qui ont été vaccinés, c'est qu'on peut en effet accorder un certain délai avant la deuxième dose. Et puis ça, il faut se rappeler que c'est au niveau de la population générale. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il faut quand même ne pas exagérer. Donc, on a été jusqu'à 4 mois. 4 mois, ça va quand même être un délai qui est assez important. Il y en a qui parlent plus de 3 mois, même de 2 mois. Mais ce qui est aussi important, c'est que on s'en doutait, mais il y a des données qui démontrent que, évidemment, les personnes qui sont un peu plus âgées, certaines personnes, comme par exemple l'obésité, peut être aussi un problème. Donc, affichent une réponse immunitaire qui est beaucoup moins efficace, beaucoup moins forte que par rapport à d'autres personnes plus jeunes et ou des personnes qui sont en santé. Donc, dans ces conditions-là, je crois que le gouvernement, et d'ailleurs, c'est un peu les recommandations actuelles, vont tenter justement de raccourcir ce délai pour permettre justement aux personnes qui sont un peu plus âgées, plus vulnérables, de recevoir la deuxième dose plus rapidement. Et ça, je crois, en effet, on a appris quand même face à justement de l'évolution de la situation, de la pandémie, avec des données qui sont plus probantes que le 3 mois, quand même, je crois, demeure une valeur sûre. Donc, vous allez être protégé pendant plusieurs mois, mais n'empêche que si, pour les personnes vulnérables, je pense qu'on pourrait raccourcir le temps.
Ça, c'est pas une mauvaise chose, oui.
Exactement. Ce que je voudrais rajouter très rapidement, c'est que le gouvernement, sa stratégie était de s'assurer de distribuer une première dose le plus rapidement possible au plus grand nombre de personnes.
Un petit peu, oui. Protéger tout le monde.
Exact. Mais non, peut-être pas un petit peu. C'est quand même une protection qui est assez forte. Même si vous recevez une première dose, votre protection pendant les prochaines semaines et mois va être extrêmement forte, même si vous n'avez pas reçu la deuxième dose. Deuxième dose va l'amplifier encore plus, mais n'empêche que vous êtes déjà très protégé et on couvre plus de personnes et on fait en sorte que le virus pourrait moins bien circuler ou du moins causer moins de dommages au niveau de la santé des Québécois. C'était la stratégie et c'est une bonne stratégie.
Bon, là-dessus, avant d'aller à la pause, on prend l'appel de Catherine. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Avez-vous été vaccinée?
Oui, moi, c'est ça, j'ai été vaccinée la semaine passée avec Moderna et moi, j'ai déjà contracté la COVID en décembre. Ce qui fait que quand j'ai eu le vaccin, j'ai eu quelques effets secondaires. Moi, j'avais comme l'impression d'avoir réattrapé la COVID, mais un peu moins fort. Mais moi, ma question, c'est par rapport aux variants, la protection, parce que j'ai de la misère à comprendre. Je m'y perds dans tout. J'essaie de prendre des informations, mais tu sais, on n'a pas les informations pour ceux qu'on a eu la COVID avec le vaccin. Je me demandais si vous pouviez m'éclairer.
Monsieur Barbeau?
Bien, c'est-à-dire que par rapport, si vous avez été infecté en décembre, donc vous avez été infecté pas avec un variant, je suppose, mais bien qu'on n'avait pas encore les tests, les criblages qu'on faisait de façon. Mais chose certaine, c'est qu'en ce moment, vous avez été infecté, vous auriez été protégé pendant quelques semaines, mais il faut quand même avoir le vaccin. Le vaccin va vous donner une très bonne protection, une meilleure protection probablement que l'infection naturelle. Et face aux variants, bien qu'on entend souvent parler maintenant des variants, certains démontrant des possibles résistances partielles, du moins celui qui circule le plus au Québec, c'est vraiment celui du Royaume-Uni, et le vaccin va vous protéger pleinement contre ce variant. Alors, vous avez une première infection, vous recevez votre vaccin et votre première dose, en fait, va vous donner même une amplification, un très bon signal, une très bonne boost au niveau de votre réponse immunitaire suite à votre première infection et vous allez être extrêmement bien protégé face aux variants britanniques et probablement les autres variants, fort probablement. Donc, vous êtes dans le même très, très bien.
Oui, réponse. Réponse rassurante. Merci beaucoup de votre appel, Catherine. On va s'arrêter maintenant le temps d'une pause. On poursuit cette conversation avec Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, après la pause. Et je vous redonne le numéro de téléphone 790-9850 dans le 514 ou 1-866-790-9850. Allez-vous vous faire vacciner? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Toujours en compagnie de Benoît Barbeau, qui est virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. J'ai 2 téléphones juste avant, Monsieur Barbeau. Un courriel fort intéressant de Joanne Marcoux qui nous demande « Est-ce qu'on a le même risque de thrombose à la deuxième dose de l'AstraZeneca? »
C'est une très bonne question.
N'est-ce pas?
Ça, oui, exactement. Et je ne suis pas clinicien, je ne sais aucunement si les données sont disponibles. J'aurais tendance à dire que vos risques demeurent les mêmes sous toute réserve. Vous savez, le problème en ce moment de cette complication sévère, c'est vraiment une réponse immunitaire qui est engagée par le vaccin, mais qui, malheureusement, se dit dans une très faible proportion des personnes se dirigent contre nos plaquettes et en fait, les faits font en sorte qu'ils sont activés. Mm-hmm. Et puis, ces problèmes de thrombose et de caillots sanguins qui se retrouvent au niveau cérébral, au niveau pulmonaire, eh bien, évidemment, ça occasionne des problèmes sévères de santé. Maintenant, une fois que vous avez eu la première dose, est-ce qu'en effet, vous avez une possibilité de générer ce même, parce que c'est un anticorps qui est fautif, ce même type d'anticorps? J'aurais tendance à dire que vos probabilités ne sont pas nécessairement différentes. Même peut-être moins, parce que vous n'avez pas eu ce phénomène-là qui est arrivé. Mais encore là, étant donné qu'on parle d'amplification du signal, ça pourrait quand même être toujours un risque. Alors vraiment, le commentaire, c'est que vous recevez votre deuxième dose, soyez vigilant et soyez à l'écoute de votre corps et assurez-vous que s'il y a des symptômes qui sont typiques, qui se présentent, consultez rapidement.
Oui, je pense qu'ils le disent évidemment après la vaccination, oui, quand on a l'AstraZeneca ou n'importe quel vaccin, si jamais on a le souffle, je le rappelle un peu, je ne les connais pas tous, mais souffle court, le moindrement, si vous n'êtes pas en train de faire un effort et que vous avez le souffle court, un mal de tête qui ne réagit pas à Tylenol, genre, ou quelque chose comme ça, vous ne perdez pas de temps, vous appelez le système ou vous vous rendez dans une urgence. Vincent est au téléphone. Bonjour, Vincent.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Vincent.
Écoutez, je voudrais juste faire un petit commentaire très simple. Je trouve que le débat en général est mal vulgarisé. Je l'explique. On parle des risques de thrombose. D'ailleurs, soit dit en passant, moi, j'ai eu le vaccin AstraZeneca. J'ai eu des petites mon système immunitaire a réagi un petit peu, et puis ça s'est très bien passé. Mm-hmm. J'en suis très fier. J'inviterai la population à se poser la question des risques qu'ils prennent tous les jours statistiquement en prenant leur voiture juste pour aller travailler. Il y a 40 accidents d'avion par année. Il y a 10 000 fois plus de chances de mourir d'un accident d'avion que d'une thrombose. Il y a 1 000 fois plus de chances de mourir d'une thrombose que
oui,
d'escalader. Voilà. Alors, oui. Moi, je ne comprends pas que les vulgarisateurs ne ramènent pas les gens. Vivre, c'est risqué tous les jours, y compris en prenant du Tylenol, y compris, vous le dites, vous l'avez.
Tout à fait.
Alors, je ne sais pas pourquoi.
Vincent, je vous arrête juste parce qu'en fait, il y en est question aujourd'hui même dans les journaux. Il y a des comparaisons qui sont faites avec le risque de s'étouffer seul dans la maison, le risque justement d'accident de voiture. Donc, on en parle, peut-être qu'on n'en a pas assez parlé jusqu'à maintenant, je serais très d'accord avec vous. Mais effectivement, il y a d'autres choses qui nous mettent à risque. La noyade, on se baigne quand même si on sait que ça peut arriver. Chaque été, il y a des noyades, etc. Bon, on s'entend qu'il y a certaines personnes peut-être qui ne prennent pas les bonnes mesures, qui ne sont pas prudentes, mais donc le risque dans un vaccin, disons, M. Barbeau, que comparé à ces autres risques-là, c'est assez minime.
Bien, c'est certain que, vous savez, il faut toujours mettre le tout dans le contexte puis comparer quels sont les risques de la vie quotidienne. Je ne suis pas sûr si ce message-là nécessairement sera rassurant auprès de tout le monde. Vous savez, ce qui nous frappe en ce moment, c'est le décès de cette femme qui, en effet, n'avait aucun problème de santé réel. Alors ça, en soi, l'image qui est envoyée, vraiment, c'est sûr que tous ceux qui sont hésitants vont justement se l'accaparer, vont les faire douter. Ce qui est important aussi, je comprends, de le mettre en contexte aussi, c'est extrêmement important de démontrer justement qu'il y a d'autres risques dans la vie, mais c'est aussi de faire démontrer qu'on comprend quand même ce qui se passe, puis qu'on a aussi une façon, comme vous avez mentionné, de détecter des signes avant-coureurs et de traiter les personnes qui pourraient justement, dans un cas sur 100 000, afficher justement des complications sévères. Alors, tout ça mis ensemble, on doit vraiment informer à tout niveau justement la population pour qu'elle comprenne que le risque demeure très faible et, comme votre intervenant a mentionné, demeure aussi moins élevé que certaines autres situations dans la vie courante qui peut aussi nous mener justement à une hospitalisation, même un décès, bien sûr.
Tout à fait. Bon, là-dessus, un autre appel, c'est Marc qui veut nous parler. Bonjour, Marc.
Oui, bonjour. J'aimerais avoir une information. Ma femme, au fond, est enceinte de 6 mois, puis on parle de plus en plus de vacciner les femmes enceintes à ce niveau-là. On se pose de sérieuses questions par rapport au bébé qui est en santé. Tout le monde, tout va bien, mais on s'interroge sur certaines questions. Est-ce que ça vaut la peine ou pas, ou quoi que ce soit, ou le risque? Surtout à ce niveau-là, je voulais avoir une information.
Monsieur Barbeau, on vous écoute.
Oui, je ne suis pas évidemment, je ne suis pas obstétricien ni clinicien, mais cependant, il y a des femmes enceintes qui ont été incluses dans les études, des phases cliniques 3 et certaines études plus précises, et on a démontré, du moins d'après les données, qu'il n'y avait pas d'impact au niveau des vaccins chez les femmes enceintes. Ceci dit, rappelez-vous aussi qu'il faut aussi prendre en considération être vacciné et protégé lorsque vous êtes enceinte, versus attrapé et être infecté par le virus de la COVID-19. Alors, les complications pourraient être certainement plus sévères si vous êtes infecté que en fonction, justement, de recevoir le vaccin. Si vous avez certainement des inquiétudes, je crois que la meilleure chose, c'est d'en parler à son médecin, puis vraiment d'établir justement quels sont les risques. Mais je rappelle aussi qu'il faut toujours mettre en contexte justement à quel point, lorsque vous êtes infecté par le virus et que vous êtes enceinte, ça pourrait aussi créer justement une situation beaucoup plus complexe et sévère.
Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup de votre appel, Marc. Un dernier appel de Martial, qui a une question pour vous aussi, M. Barbeau. Martial, bonjour.
Bien, bonjour à vous deux. Je vous raconte mon historique brièvement. Moi, c'est question mes anticorps puis versus le vaccin, vous allez comprendre bien vite. J'ai 69 ans et puis à la mi-janvier, j'ai arrêté mes traitements de radiothérapie, cancer de la gorge guéri. OK?
Bravo.
Donc, mais oui, bravo. J'étais traité au CHUM, extraordinaire, traitement VIP, des gens qui sont venus partout. Alors voilà, ma question, c'est que avant ma radiothérapie de décembre-janvier, je me demande comment que mon vaccin de grippe saisonnier a pu fonctionner et mon vaccin Pfizer du 14 avril, après mes traitements, qu'est-ce que mes anticorps avaient l'air pour réussir à fabriquer de quoi qu'il y a de l'allure avec le vaccin?
Quelle bonne question. Est-ce que les anticorps fonctionnent bien quand quelqu'un est dans la situation de M. Martial, M. Barbeau?
Pardon, répétez le premier mot, excusez.
Je demandais à M. Barbeau de répondre à votre question.
Voilà, merci.
Ben, c'est certain que d'une certaine façon, vous avez besoin d'une réponse immunitaire lorsque vous recevez un vaccin. Si vous êtes immunosupprimé, et votre réponse immunitaire est moins efficace, vous allez avoir moins de capacité de produire des anticorps. Mais si avant un traitement, vous recevez le vaccin, il y a des bonnes chances que votre production d'anticorps va être déjà enclenchée. Et comme encore là, je répète, je ne suis pas un clinicien, je pense que votre médecin, vous pourrez aussi plus savoir un peu quelle est votre situation par rapport au traitement, à quel moment vous avez reçu votre vaccin. Et tant et si longtemps que votre réponse immunitaire, qui quand même doit être toujours atteindre une certaine efficacité, est présente, permet justement à produire des anticorps, vous devriez en produire une quantité suffisante qui peut vous protéger. Mais il y a une fluctuation, vous savez, même au niveau de la population générale, il y a des gens qui vont répondre un peu moins que d'autres. Mais certainement, il y a des traitements qui vont faire en sorte que votre réponse immunitaire va être moins efficace. Et ça, il faut en effet le prendre en considération.
Bon, merci beaucoup, Martial, d'avoir téléphoné. Une dernière question qui vient de moi. Je me demandais, quelqu'un qui, comme moi, par exemple, a eu, comme vous, l'AstraZeneca, M. Barbeau, est-ce que la deuxième dose pourrait être d'un autre vaccin? Parce que justement, je lisais tantôt que l'arrivée d'AstraZeneca, et je sais que les scientifiques ne s'entendent pas trop, mais j'aimerais votre opinion là-dessus. Est-ce qu'on est encore plus protégé quand on a deux sources différentes de vaccins ou est-ce qu'on est à moitié protégé deux fois?
La réponse à la question, en fait, dépend aussi à qu'est-ce que vous entendez par source. Donc, est-ce qu'on parle de la même technologie ou technologie différente? En ce moment, je crois que les efforts vont dans le sens qu'on pourrait en effet utiliser un autre vaccin, mais qui utilise la même technologie. Donc par exemple, on pourrait
Pfizer-Moderna.
Ou AstraZeneca et Johnson. Donc, ils sont basés sur ce qu'on appelle des vecteurs viraux ou Pfizer et Moderna. Et ça, en soi, en effet, des études sont en cours. On devrait avoir des résultats. Puis on croit, en effet, que normalement, on devrait bien avoir une bonne sécurité et une bonne efficacité. Mais lorsqu'on change la technologie, là, en soi, ça doit être évalué. Je crois qu'il y a des évaluations qui sont en cours. On n'a pas encore les données pour s'assurer non seulement de la sécurité, mais que votre efficacité sera préservée. On pourrait penser que oui, mais n'empêche que tant si longtemps qu'on n'a pas les données, on ne pourra pas voir à quel faire aller de l'avant avec ce processus de ce qu'on appelle de mix and match. Alors, je crois qu'il y a vraiment des données qui manquent, mais certainement, ça pourra être une possibilité. Ça donnera plus de flexibilité. À noter cependant que Johnson & Johnson
une seule dose.
Oui, donc, mon exemple est peut-être un peu mauvais, mais n'empêche que Johnson & Johnson avait déjà considéré la possibilité et le font en ce moment de d'inclure une deuxième dose à leur formulation vaccinale.
En quelques secondes, puisqu'on va se laisser, Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, vous sentez-vous quand même relativement optimiste quand vous regardez ce qui se passe en ce moment au Québec?
Certainement. Moi, je crois qu'au Québec, là, on est dans une position favorable. On regarde les différentes provinces qui ont tardé dans leurs mesures, comment ils ont justement appliqué leurs mesures à la rapidité. Au Québec, on était plus rapide, on a été fait des suivis beaucoup plus stricts. Et je crois que notre campagne vaccinale, si elle peut continuer de bien se poursuivre et que si on peut garder ce nouveau nombre de nouveaux cas d'infection bas, on va être dans une situation qui va être encore plus favorable au cours des prochains mois. Alors moi, je crois qu'on est vraiment dans une très bonne direction.
Excellent. Ben merci encore beaucoup. Merci mille fois, Benoît Barbeau. Je rappelle donc que vous êtes virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Merci. On va s'arrêter pour une petite pause et au retour, est-ce que vous vous êtes déjà fait voler vos données personnelles? Est-ce que vous avez porté plainte aussi au tribunal administratif du logement? Je vous explique tout ça après.